This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères. Une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier. Cette année-là, c'est 1950, une année riche en événements politiques ou musicaux. Nous sommes à 5 ans de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe se reconstruit avec l'aide des États-Unis et elle esquisse une première réunion avec le plan Robert Schuman pour une communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, l'ancêtre de notre Union européenne d'aujourd'hui. Le partage du monde a eu lieu à Yalta entre monde occidental d'économie de marché et monde communiste. Les États-Unis, après la guerre du Pacifique et la chute du Japon, sont très présents dans le Pacifique. La fin de la guerre mondiale a créé une certaine confusion en Extrême-Orient, en Corée, en Indochine ou au Laos. Et la guerre se poursuit entre Est et Ouest à travers les clivages entre monde libre, entre guillemets, et monde communiste, avec notamment la montée en puissance de la Chine populaire de Mao Tse-tung. Nous verrons tout au long de cette année 1950 que l'état de guerre se poursuit au niveau des empires coloniaux dont les autochtones aspirent à l'indépendance. Yvan Cadeau, historien, auteur de La guerre de Corée 1950-1953, aux éditions Perrin.
Alors effectivement, les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, font régulièrement l'actualité. Et moi, il m'a paru intéressant de creuser un petit peu le sujet et de voir pourquoi, effectivement, ces deux Corées, maintenant depuis plusieurs décennies, étaient toujours officiellement en guerre l'une contre l'autre. Et effectivement, il y a très peu de choses dans l'historiographie française sur la guerre de Corée. Il y a plusieurs livres sur le bataillon français de l'ONU que la France a envoyé combattre en Corée entre 1950 et 1953. Mais sur la jeunesse du conflit et son déroulé, il y avait une absence. Et alors, au service historique de la défense, où je travaille, nous avons des archives à la fois de ce bataillon français, mais également des archives américaines ou britanniques, qui permettent d'avoir des sources primaires pour commencer la rédaction d'un ouvrage. Mais pour bien comprendre ce conflit coréen, il faut remonter à 1945, c'est la date à laquelle le pays est divisé en deux entités, l'une au nord avec effectivement un fort soutien soviétique, et puis une seconde au sud, soutenue par les Américains. La période 1945-1950 est fondamentale pour comprendre la suite des événements, puisque c'est là que se cristallisent les oppositions entre le nord et le sud. Et l'historien américain Bruce Cummings a raison de le souligner. La guerre de Corée, c'est d'abord une guerre civile qui oppose les Coréens entre eux. Et entre 45 et 50, on peut déjà dénombrer plus de 100 000 morts entre les deux Corées. Donc la guerre, véritablement, on peut la faire remonter à ce moment-là. À partir de 1950, les Nord-Coréens envahissent la Corée du Sud. Mais là, encore, il faut souligner que si Kim Il-sung, le leader nord-coréen, prend l'initiative de cette guerre, le leader du Sud, Syngman Rhee, il faut bien savoir que s'il en avait eu les moyens militaires, il aurait fait exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les Américains se méfient de Syngman Rhee, leur poulain, et ne lui donnent pas les moyens militaires, de se défendre. Et c'est pour ça que, très rapidement, ça tourne à la catastrophe. Alors, cette guerre, schématiquement, on peut la diviser en deux phases. Une phase de guerre de mouvement, 1950-1951, avec l'introduction de nouveaux acteurs, la Chine communiste, l'Union soviétique, et puis ensuite une phase de stabilisation, 1951-53, qui voit la guerre s'enliser sur le terrain, et on assiste finalement à des combats du type de la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, mal connu, ce conflit coréen, il est quand même fondamental, puisque c'est la première fois que l'ONU part en guerre, monte une coalition, et que des nations vont combattre, 16 au total, sous son drapeau. Première fois aussi, et seule fois de la guerre froide, où les Américains combattent directement leurs ennemis, la Chine communiste et l'Union soviétique. Et puis c'est également un laboratoire pour les militaires, puisque c'est là que les doctrines de la guerre froide vont être mises en place.
Après la lutte contre le nazisme, c'est un combat extérieur et intérieur contre le communisme qui s'ensuit. Aux États-Unis notamment, où la chasse aux sorcières va durer 4 ans sous l'impulsion du sénateur McCarthy. Côté jazz, on est en plein bebop depuis 1945, tant aux États-Unis qu'en Europe. Les grandes formations swing, pourtant, résistent encore. Jumping at the Woodside par le Count Basie Orchestra, un orchestre composé presque que de solistes. Je ne résiste pas au plaisir de vous les nommer: Thad Jones, Snooky Young, Wendell Cully et John Newman aux trompettes, Henry Cooker, Al Gray, Benny Powell, au trombone, Marshall Royal, Frank Vess au saxo alto, Billy Mitchell, Frank Foster au saxophone ténor, Charlie Faulks au saxo baryton, Freddie Green à la guitare, Eddie Jones à la basse et Sonny Payne, musicien très important dans l'orchestre de Basie, à la batterie. Les deux solistes qu'on entendait, c'était Al Gray au trombone et Frank Foster au saxophone ténor. C'est enregistré le 20 février 1950 à New York. L'orchestre est en pleine forme. Alors, au cours de l'année, évidemment, Count Basie sera obligé de dissoudre l'orchestre pendant quelques temps. Il créera un octet. On aura l'occasion dans la semaine d'écouter cet octet, donc de 8 musiciens, mais qui sonne presque aussi bien que le grand orchestre. Alors, il est un autre musicien, chanteur, qui existe déjà beaucoup et qui est encore un chanteur de jazz. Il s'agit de Frank Sinatra.
When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
Voilà, nous sommes à New York le 24 avril 1950 et Frank Sinatra enregistre avec le George Siravo Orchestra. George Siravo est le chef d'orchestre et en même temps l'arrangeur de ce morceau « When You're Smiling », un grand classique, et avec un grand orchestre qui était l'un des meilleurs orchestres de studio de cette époque. Alors cette année-là, c'est donc cohabite plusieurs formes de jazz, plusieurs styles, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant à observer, c'est-à-dire qu'au fond, les différentes modifications, les différents mouvements qui se sont succédés, non seulement ne s'excluent pas, mais en fait, ils s'ajoutent. On peut trouver à cette époque du Dixieland, on peut encore trouver... Il y a un mouvement New Orleans Revival, avec notamment Louis Armstrong, qu'on entendra dans la semaine. Et donc, on a le bebop qui est encore très vivant, bien entendu, probable jusqu'à la mort de Charlie Parker vers les années 55. Et donc, on peut écouter en 1950 alors un morceau, un enregistrement avec les trois maîtres du bebop. J'ai nommé Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Thelonious Monk, que l'on n'a pas entendu depuis 1948. Thank you. c'était en le 6 juin 1950, Dizzy Gillespie à la trompette avec sourdine, Charlie Parker au saxophone alto, Thelonious Monk au piano, Curly Russell à la basse et Buddy Rich à la batterie. En réalité, c'est Norman Granz, le producteur de jazz à la Philharmonique, qui a suscité cette session en imposant le batteur blanc, Buddy Rich, qui était, moi c'est un petit peu ce que je regretterais dans cette interprétation, c'est qu'on entend les trois maîtres, mais ce batteur était un, j'allais dire un batteur de cirque, une sorte de virtuose, qui, et d'ailleurs on l'entend là, qui fait plus de la batterie que de la musique, pourrait-on dire, sans vouloir être trop méchant. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est reste un document tout à fait exceptionnel avec ces trois-là. D'ailleurs, à partir de là, Monk va de nouveau se remettre à enregistrer alors qu'il avait eu un passage à vide. Il est vrai que tout au long de sa carrière, des passages à vide, il en aura plusieurs. Alors donc, on a vu swing, bebop, donc tout ça cohabite, coexiste dans une parfaite bonne entente. Et souterrainement, une troisième forme de jazz est en train de naître. Elle est en gestation dans ces années-là. Et une fois de plus, c'est à Miles Davis que nous la devons. Moon Dreams, enregistré le 9 mars 1950 par une formation réunie par Miles Davis. Alors à l'été 1948, Miles Davis, en collaboration avec l'arrangeur Gil Evans, qu'il a rencontré quelques années auparavant, décide de mettre son projet à exécution en se détachant des principes du bebop, auquel il a évidemment participé, pour créer une nouvelle forme de jazz. Alors il est installé à New York et il fonde un nouveau groupe, intermédiaire entre le big band et la petite formation, le quintet on va dire. Ce sera un nonette, 9 musiciens donc, dont chaque section devra dans l'esprit de ses créateurs imiter l'un des registres de la voix humaine. La section rythmique comprend contrebasse, batterie et piano, bien sûr, et la batterie est tenue par l'ancien batteur de Charlie Parker, Max Roach. Parmi les cuivres, on retrouve la trompette de Davis, bien sûr, le saxophone baryton de Jerry Mulligan, dont c'est une des premières apparitions, le saxophone alto de Lee Konitz, un trombone, un corps d'harmonie et un tuba. Donc on voit par là que c'est une formation un petit peu atypique par rapport à tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à ce moment-là. Alors le 18 septembre 1948, le nonette se produit en public pour la première fois et il assume la première partie d'un spectacle de Count Basie. On voit l'écart qu'il a pu y avoir entre ces deux formations au Royal Roost de New York sous le titre « Nonette de Miles Davis, arrangement de Jerry Mulligan, Guy Evans et John Lewis ». John Lewis qui sera le créateur du Modern Jazz Quartet, bien sûr. Alors c'est une dénomination inhabituelle qui trahit un peu la volonté de créer une musique reposant largement sur les arrangements, puisqu'on cite les trois arrangeurs. Alors joindre une musique dont l'orchestration est très riche, des arrangements soignés, une relative lenteur, tout ça rompt radicalement avec le côté urgent, stressé presque du bebop. Le groupe est remarqué par le directeur artistique des disques Capitol, Pete Rugolo, lui-même musicien d'ailleurs, et qui se montre très intéressé. Alors, on envisage d'enregistrer. Après un contretemps dû à des grèves, donc en 1948, au cours de laquelle d'ailleurs Miles refuse une invitation de Duke Ellington, le nonette entre finalement en studio début 1949 à New York pour une série de 3 séances qui vont changer la face du jazz, mais pas tout de suite. En 15 mois, et avec de nombreux musiciens différents, le groupe enregistre une douzaine de morceaux dont les titres sont Goldchild, Move, Budo, Jérou, Bopticity et Israël. 6 morceaux d'entre eux sortiront en 78 tours. Le reste devra attendre l'année 50, puisqu'on est donc en 49. Et l'album, où tous les titres seront réunis, Birth of the Cool, que l'on connaît aujourd'hui, sortira effectivement en 1957, 7 ans après. Alors l'album a été enregistré en réalité en 3 séances, le 21 janvier, le 22 avril 1949 et le 9 mars 1950 à New York. Alors pourquoi la marque Capitol et Peter Rigolo ont gardé, n'ont pas voulu sortir ces enregistrements? Parce qu'ils pensaient que ce son-là était un petit peu en avance et que donc ils prenaient des risques sur le plan commercial. Ceci dit, ils les ont pris 7 années plus tard, puisque au moment où l'album est sorti, quelques critiques ont été intéressées, mais ça n'a pas été du tout un succès commercial. En attendant, ça veut dire que le cool jazz était né et que même s'il ne faisait pas une révolution immédiate, le nonette allait poursuivre son chemin, il allait être dissous, puis revenir et enfin finir par s'imposer. Alors le cool, c'est donc une réaction aux folies harmoniques du bebop. Quand les jazzmen tels Charlie Parker voulaient atteindre le hit, décrit par Jack Kerouac dans son roman Sur la route, c'est une musique plus mixte, plus métissée aussi, qui intéresse beaucoup les blancs de la côte Est. Une musique plus harmonieuse, plus travaillée, moins décousue. Alors d'aucuns diront que c'est une musique froide, d'où ce titre cool. Bon, chacun se fera son opinion. Ce qui est à remarquer quand même, qui montre que la société de son côté évolue, la formation est composée à moitié de musiciens noirs et à moitié de musiciens blancs. Thank you. Rocker, une composition de Jerry Mulligan, arrangée par Jerry Mulligan, ou que l'on entend longuement en improvisation sur ce morceau, et un autre musicien que l'on entend aussi au trombone, il s'agissait de J.J. Johnson. Enregistré donc le 9 mars 1950 à New York pour Capitol Records. Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode consacré à l'année 1950, à suivre demain, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Ware en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.